L'Église au temps de la Révolution et de l'Empire. Alors, j'avais mis un sous-titre pour le petit atelier de ce soir, c'était Delenda est Ecclesia. Il faut détruire l'Église. Alors, j'ai mis un point d'interrogation. Et donc, la signification profonde de l'exposé de ce soir, le fil conducteur, c'est de se demander si la Révolution a effectivement voulu détruire l'Église ou pas. Alors, pour une fois, je vais citer mes sources. Alors, j'ai travaillé avec des livres, des articles de quatre historiens. Jean de Vigry, qui est mort il y a quelques mois. Yves Brulet, Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire, tous les deux décédés, et qui ont beaucoup travaillé sur l'histoire religieuse contemporaine en leur temps. Ils marquent par leur œuvre un moment de l'historiographie religieuse en France qui n'est pas à négliger, loin s'en faut, à une époque où ce n'était pas forcément très à la mode. Alors, introduisons maintenant. Entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle, on est entré dans une ère de bouleversements politiques, scientifiques, intellectuels, économiques, qui est aussi en même temps un processus général de sécularisation, c'est-à-dire d'affranchissement vis-à-vis de la foi chrétienne en ce qui concerne les pays christianisés. Et donc, l'Église a eu affaire à des défis assez inédits par leur ampleur, et il lui a fallu chercher les voies possibles d'un retour en chrétienté ou d'une nouvelle évangélisation, suivant l'expression de telle ou telle époque. Alors, on a, pour une bonne part, une évidence historique, c'est que cette confrontation entre l'Église et le monde moderne, finalement, eh bien, elle trouve son origine dans le siècle des Lumières et surtout dans les événements de la Révolution française et de l'Empire napoléonien, dont la portée dépasse largement la seule France. Et donc, ce que je vous propose, c'est de nous demander comment l'Église a traversé la tourmente révolutionnaire pour essayer d'en comprendre un petit peu le sens, l'essence, parce que ça va nous aider aussi peut-être à avoir quelques éléments pour voir le rapport de l'Église à la modernité du monde. On explique toujours que l'Église est anti-moderne, qu'elle est dépassée, qu'elle est archaïque, rétrograde. Alors voyons un petit peu comment s'est déroulée cette période révolutionnaire, mais pour une fois, de son point de vue. Et de fait, du point de vue de l'Église, cette période se place sous le signe de la persécution. De fait, l'histoire religieuse de la France pendant la Révolution est l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire du christianisme. Il y a eu une grande persécution qui a été inattendue, surprenante et d'une extrême cruauté. Inattendue parce que la dernière persécution en tant que telle remontait à Dioclétien. Ça ne nous rajeunit pas, c'est la fin du IIIe siècle. Et cette fois-ci, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui sont persécutés, mais le christianisme. C'est la première persécution en Occident depuis l'édit de Constantin en 313. Une persécution surprenante aussi, quand on se rappelle que les Lumières avaient exalté la tolérance, on y reviendra. Et une persécution extrêmement cruelle enfin, puisqu'elle s'est soldée par la mort d'au moins 8000 prêtres religieux et religieuses, y compris celle de plusieurs milliers de laïcs mis à mort spécifiquement en haine de la foi. Elle s'est traduite aussi par des proscriptions, par des violences de toutes sortes, par exemple un serment exigé des prêtres contre leur conscience. Et puis, elle s'est traduite également par une déchristianisation systématique et l'instauration de cultes sacrilèges. Mais en amont de tout cela que je vais vous raconter, est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté de détruire l'Église ? Cette volonté n'est en effet pas seulement le fait de la terreur, on va le voir. Elle lui est antérieure et elle se manifeste en réalité dès le début de la Révolution, très tôt, très très tôt. Donc, le questionnement que je vous propose, c'est quelle est la nature de la persécution qu'a subie l'Église pendant la période révolutionnaire et même pendant la période napoléonienne, même si c'est un peu différent, bien sûr. Est-ce que la Révolution a voulu détruire l'Église? Est-ce qu'il y a un plan préétabli? C'était l'opinion de Jean de Vigry. Ou est-ce qu'on a affaire à une improvisation et un « dérapage », entre guillemets, comme le croyait l'historien Pierre Chenu? De fait, la Révolution française n'est pas une révolution comme les autres. Elle prétend à l'universalisme, tout comme la foi catholique d'ailleurs. on a les héritiers de la romanité républicaine contre la romanité chrétienne à certains égards, si on se place du point de vue du concept de romanité, du point de vue du pape en fait. On voit donc s'affronter deux universalismes, l'universalisme catholique et l'universalisme révolutionnaire. Donc le défi, l'enjeu, c'est celui de l'indépendance et ultimement même de la survie de l'Église. Donc la révolution a-t-elle pour dessein, comme l'affirmait le pape Pie VI, je cite, de détruire la religion catholique? Et si c'est cela, on peut se demander également pourquoi elle n'y est pas parvenue. Alors je vous propose un plan chronologique. La première partie sera consacrée aux origines de la persécution religieuse, donc la période 1789-93. Ensuite, on se penchera dans une deuxième partie sur le cœur de la persécution religieuse, on verra ses aspects. Et dans une troisième partie, on étudiera les rapports de Napoléon Bonaparte et de la papauté. Donc les débuts de la persécution religieuse 1789-93. Qui pouvait prévoir les événements de la période 1789-1799? Qui pouvait prévoir la chute de la monarchie le 10 août 1792 et l'exécution du roi le 21 janvier 1793 et la guerre répandue dans toute l'Europe? Personne. Alors on va essayer de voir l'enchaînement des faits. Revenons en 1789. En 1789, du point de vue de l'Église, du point de vue du pape en particulier, parce qu'on va aussi regarder un petit peu la révolution vue de Rome, c'est le temps de l'inquiétude. Quels sont les faits? Eh bien, la révolution commençante abolit l'ordre du clergé, elle abolit toute la société d'ordre, hein, puisque les États généraux se proclament Assemblée nationale constituante. Elle supprime la dîme qui représentait plus de la moitié des revenus des prêtres, et elle nationalise les biens ecclésiastiques. Ces mesures ne sont pas directement contraires à la religion, elles ont même pu avoir des effets favorables au progrès spirituel à travers le détachement qu'elles provoquent et l'esprit de pauvreté dans lequel on est bien obligé de vivre, puisque l'État a tout confisqué. Mais ils vont avoir des effets qui vont bien plus loin que ça. La suppression de l'ordre du clergé et la confiscation de ses biens placent les ministres du culte dans la dépendance entière de l'État. Il n'y a plus désormais d'église face à l'État. Les intérêts du sacerdoce, ceux de la vie monastique, et même ceux de la religion ne seront plus défendus comme la société d'ordre pouvait le permettre. Et ces différentes mesures, eh bien, elles sont liées. En confisquant les biens, c'est l'ordre du clergé que l'on veut achever de détruire. Dans le député Le Chapelier déclare: si le clergé demeure propriétaire, il continuera à former un ordre dans la nation. Donc, on ne veut plus que le clergé soit un ordre, qu'il ait une place singulière dans le fonctionnement de la société. La nationalisation de ces biens n'affecte pas seulement le clergé, d'ailleurs, parce que la spoliation de ces biens va contre les intentions des donateurs et des fondateurs qui, en constituant par leur libéralité le patrimoine ecclésiastique, avaient donné à l'Église et non à l'État. Elle lèse les pauvres. Hein, l'Église se servant de ses biens pour un grand nombre d'œuvres d'assistance et d'éducation, l'Église assurant un service public, comme on dira aujourd'hui. L'État n'est alors pas en mesure de prendre en charge la totalité de ses œuvres. Il n'est pas du tout en mesure de prendre la relève, en fait. Ainsi, il s'agit en réalité d'une spoliation des biens de l'Église. On vole Dieu, on vole les pauvres, on vole les enfants et les malades. Le but, vous le savez, c'est de combler le déficit. Le calcul était le suivant. Les dettes sont énormes. La valeur des biens de l'Église correspond au montant des dettes de l'État. Nationalisons tout et vendons tout. Les dettes de l'État seront épongées. Et pour dédommager l'Église, eh bien, on va salarier le clergé, on va en faire des fonctionnaires. C'était ça l'idée, hein. Sauf qu'on n'a pas demandé à l'Église son avis. Ça, c'est bête. Alors, et la justification de ces actes, c'est la souveraineté de la nation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'en pense Rome de ce qui se passe en 1789, seulement cette année-là? D'abord, le pape ici s'est profondément étonné devant la surenchère même des membres du clergé lors de la nuit du 4 août. Et le pape est inquiet quand Talleyrand, évêque d'Autun, propose de nationaliser les biens du clergé pour combler le déficit abyssal des finances publiques. Il fait prévaloir en compensation le principe d'une rémunération des clercs par l'État, comme je viens de vous le dire. Et la politique qui se dessine inquiète vraiment à Rome. On craint un triomphe du gallicanisme, c'est-à-dire un surcroît d'indépendance de l'Église de France par rapport à Rome, par rapport au Saint-Siège. Et puis, dans les 3 années suivantes, les choses vont s'accélérer. Donc 1790, 91, 92. Le moment important, c'est la fameuse constitution civile du clergé. On va y venir. Alors, en 1790, le 13 février, la constituante émet un décret tout à fait étonnant, puisqu'il interdit de prononcer des vœux solennels en religion. Donc on s'attaque à la vie contemplative. Ça, c'est pas souvent su, ça. On supprime tous les ordres où l'on fait ce genre de vœux, c'est-à-dire les ordres monastiques, les chanoines réguliers et les ordres mendiants. Il n'y a pas d'équivalent de ce genre d'action depuis la suppression des monastères par Henri VIII d'Angleterre. La vie consacrée parfaite est tenue pour rien. Les moines et les religieux sont pressés de quitter leur couvent. On a là donc une très grave atteinte à l'Église et à la religion. Vous voyez, on voit bien la philosophie des Lumières derrière. Les contemplatifs sont des inutiles et des improductifs. Il faut s'en débarrasser. Et donc, ça se passe seulement 8 mois après le début de la Révolution. Et s'il s'agit d'un dérapage, il survient singulièrement tôt. Alors, la constituante opère une complète réorganisation de l'Église, gallicane pour le coup, parce qu'on essaie de modeler une Église strictement française, une Église nationale, et elle vote la Constitution civile du clergé. Ce texte, si important, a été élaboré sans aucune concertation avec la papauté. La nation étant souveraine, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a le droit d'intervenir seule et indépendamment de toute puissance étrangère dans l'organisation de la vie religieuse, c'est le prétexte que l'on invoque, et les conséquences vont en être incalculables. Comme le disait le grand historien des questions religieuses Émile Poula, c'est l'acte de naissance des deux Frances, en fait. Et donc, la constituante crée une nouvelle Église de France, l'Église de l'Ordre Nouveau, comme l'écrivait Jean de Vigry, qui va se réduire finalement à une simple administration du culte. La géographie ecclésiastique est totalement redessinée, les territoires des nouveaux diocèses se confondant avec celui des départements. Les prêtres et les évêques sont considérés comme des fonctionnaires, ils sont donc payés par l'État. Le pape perd tout pouvoir de nomination épiscopale, donc on casse le concordat de 1516 qui avait été signé entre le Saint-Siège et François Ier. Les évêques, donc, seront désormais élus démocratiquement par le corps électoral du département, y compris par les citoyens non catholiques. Et ils recevront l'investiture canonique de l'évêque métropolitain et non plus du pape. Alors, c'est quand même être un peu présomptueux de croire que le pape va accepter ça. La hiérarchie catholique doit donc se renouveler en dehors de tout contrôle du siège apostolique. Les chapitres cathédraux disparaissent, et donc on a un système complètement nouveau, complètement rationaliste. La religion n'est plus au fond qu'une activité de l'État parmi d'autres. On va donc mettre en place une nouvelle Église qui est une Église d'État, mais d'un État sans religion. La nouvelle constitution du royaume ignorant la religion et ne reconnaissant que des opinions religieuses. C'est donc une Église schismatique. Aussi, les évêques se voyant interdits de solliciter du pape leur institution canonique et leur juridiction spirituelle. Le concordat de 1516 a donc été rompu unilatéralement, mais en plus, l'Église de France est séparée de Rome en vertu de la loi. Elle est donc condamnée au schisme, parce que le schisme est vite rendu obligatoire. En effet, le 26 novembre 1790, le décret Voidel met en demeure les évêques et les curés d'adhérer à la constitution civile du clergé, sous peine d'être démis de leurs fonctions. Et ils doivent jurer fidélité à la nation, à la loi et au roi et à la constitution votée par l'Assemblée nationale et sanctionnée par le roi. C'est donc cela que l'on appelle le serment constitutionnel. Il faut jurer ou s'en aller. C'est la seule alternative. Et donc, le clergé va éclater entre les jureurs, ou constitutionnels d'un côté, ceux qui vont jurer, voilà, du côté révolutionnaire, et les non-jureurs, qu'on appellera aussi les réfractaires, les réfractaires au serment constitutionnel, qui se mettent donc du côté de la fidélité au pape. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, Et une grande partie des martyrs de la Révolution, ce sont des martyrs de la fidélité au Saint-Siège, en fait. À la fin de l'année 1790, l'Église est donc déjà humiliée, asservie et mutilée. Humiliée par la confiscation de ses biens, asservie par l'État et mutilée par l'abolition des ordres religieux et par la suppression de 52 diocèses et de près de 4000 paroisses. Dès 1790, on commence à disperser aux enchères les biens des ordres religieux et ceux des paroisses supprimées. La France monastique est vendue. Par exemple, en Bretagne, dans le district de Locronan, on vend 13 chapelles. Voilà. Simplement, on n'est pas très malin parce qu'on commence à vendre beaucoup de choses en même temps et donc elles se déprécient. Alors, les acquéreurs de biens nationaux, comme les a décrits Balzac à travers le père Grandet dans Eugénie Grandet, eux vont s'enrichir parce qu'ils rachètent du patrimoine mobilier, immobilier, des terres, des vignobles, etc., qui appartenaient auparavant à l'Église, à des monastères. Donc eux, ils vont s'enrichir et vont bien en profiter. Mais voilà, la France monastique, la France religieuse commence à être vendue. Cependant, il existe encore une certaine liberté religieuse. En 1791, 92 et même 93 jusqu'à l'automne, la plupart des églises sont encore ouvertes. On y dit la messe. On y dispense les sacrements. Alors, ils sont dispensés soit par des prêtres schismatiques, soit par des réfractaires qui, chassés de leurs églises, peuvent encore exercer dans les chapelles de congrégation ou dans les maisons particulières. Le culte est donc diminué, mais il n'est pas anéanti. Alors, comment réagit Rome à tout ça? Eh bien, d'abord par un long silence. Est-ce que c'est de l'attente prudente? Est-ce que c'est de l'indécision? On ne sait pas, mais. En 1791, en tout cas, la situation s'aggrave et là, le Vatican sort de son expectative, surtout parce que la France révolutionnaire annexe Avignon et le comtat venaissin qui appartenaient au Saint-Siège, et puis parce que, donc surtout, on oblige le clergé à prêter serment. Et donc le pape demande à Louis XVI d'utiliser son droit de veto contre la constitution civile du clergé. Et il lui demande le 10 mars 1791, mais le document arrive un jour trop tard. Le roi vient d'entériner la révolution religieuse, il ne pouvait plus attendre. Et c'est aussi une condamnation en bloc de la Révolution française dans ses œuvres comme dans ses principes qu'on trouve dans le document du pape. Pour justifier la constitution civile du clergé, les révolutionnaires affirment que la nation étant désormais souveraine, elle peut légiférer librement sur les institutions religieuses françaises sans négocier avec personne. Eh bien, le pape souligne la contradiction qu'il y a d'intégrer le clergé parmi les fonctionnaires de l'État au moment même où la France cesse d'être un royaume catholique en tant que tel. Alors, la question de l'élection des évêques, la question de l'investiture canonique, la question de l'incompatibilité entre les principes contenus dans la Déclaration des droits de l'homme et l'enseignement traditionnel de l'Église sont autant de pierres d'achoppement. Et c'est pour ça que le pape écrit que la Révolution a pour dessein de détruire la religion catholique. Voilà où on en est dans les tout débuts de la Révolution du point de vue de l'Église de France et du point de vue de Rome. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie pour voir un peu le cœur de la persécution religieuse. Parce que là, ce n'est qu'un avant-goût. Le sang n'a pas encore coulé. Alors, regardons un petit peu, toujours du point de vue religieux, l'évolution politique de Varennes en juin 91 à la Terreur, 93-94. La condamnation de la constitution civile du clergé a impressionné Louis XVI et elle a précipité sa décision de quitter la France. C'est la fuite à Varennes, hein, de juin 91, et c'est aussi l'échec de cette fuite. Cet événement prélude à la chute de la monarchie, comme vous savez. Inutile de vous dire que les relations diplomatiques entre Paris et Rome ont été rompues, hein, bien sûr. Les diocèses constitutionnels se retrouvent en état de schisme, hein, puisque un très grand nombre d'évêques a refusé la constitution civile du clergé, et donc ils ont été remplacés par des évêques jureurs. Le clergé se divise, les fidèles aussi. De nombreux jureurs vont même rejoindre les réfractaires quand ils connaîtront la vie du pape. Et puis, la Révolution française, enfin la France, va entrer en guerre avec une partie de l'Europe à partir d'avril 1792, avec l'Autriche et avec la Prusse. Les opposants à la politique religieuse menée depuis 1789, déjà considérés comme des ennemis de la Révolution, sont désormais assimilés à des traîtres à la nation. Et donc, les révolutionnaires vont voter les premières lois de déportation. Certains prêtres vont trouver refuge dans les États pontificaux. Et le 10 août 1792, la monarchie est renversée. Ça va se dérouler dans des circonstances dramatiques, en particulier au début du mois de septembre. À Paris, ce sont les fameux massacres de septembre sur lesquels je vais revenir. Ensuite, c'est la proclamation de la République. République qui va persécuter le clergé, qui va entreprendre de déchristianiser la France et créer une religion civique de substitution. En 1793, le 21 janvier, c'est l'exécution du roi Louis XVI, qualifié de martyr par le pape. Et puis, une première coalition se constitue contre la France, qui va encore radicaliser les révolutionnaires et plonger la France dans la terreur avec un grand T. Le clergé est persécuté, qu'il soit d'ailleurs désormais constitutionnel ou réfractaire. Et puis, ce sont les terribles événements de la Vendée et les exactions, les ordres terribles du comité de salut public. Voilà pour quelques éléments de chronologie. Voyons maintenant la forme que prend cette persécution religieuse, anti-religieuse. Tout l'effort des révolutionnaires sous la Terreur, sous l'an 1, sous l'an 2, sous la Convention thermidorienne et même sous le Directoire, consiste d'abord à empêcher par tous les moyens l'exercice normal du culte. Et donc le premier moyen, c'est de persécuter les prêtres. Le prêtre catholique n'est pas seulement un ministre ordinaire, pas un fonctionnaire, contrairement à ce que les révolutionnaires auraient voulu qu'il soit. C'est un autre Christ, un alter Christus, le dispensateur des sacrements, et donc qui supprime ce ministre atteint profondément la religion. Alors, regardons ce qu'il arrive d'abord aux prêtres réfractaires. La législative les chasse de leur paroisse, la convention les déporte et ordonne la mort de tous ceux qui, refusant de quitter la France, se sont soustraits à la déportation. Il y a eu trois étapes. Premièrement, il faut prêter serment sous peine d'être démis. Puis, il faut prêter serment sous peine d'exil. Puis, il faut quitter le territoire ou se laisser déporter sous peine de mort. On passe donc d'une liberté sous condition à une contrainte absolue. Comment cela a-t-il pu se faire? Eh bien, l'État révolutionnaire, ne supportant pas la contradiction, a transformé cette dernière en crime inexpiable, tout simplement. Donc, la Constituante a fabriqué la Constitution civile du clergé, schismatique, et prétend que tout le clergé y adhère. Mais c'est un échec, parce qu'elle est rejetée par tous les évêques sauf quatre, et par un prêtre sur deux. Ensuite, on passe aux injures, on traite les prêtres, le clergé d'antipatriotes, de monstres, de serpents, de pestiférés, de prêtres démoniaques indignes de l'existence, autrement dit, on les criminalise et on les bestialise. Et des historiens du totalitarisme comme Stéphane Courtois ont bien montré que pour exterminer un ennemi, d'abord on lui dénie la condition humaine. C'est exactement ce qui se passe. Et enfin, on peut donc passer à l'acte. Si quelqu'un, dit Jean-Jacques Rousseau, avait dit Jean-Jacques Rousseau, hein, si quelqu'un, après avoir reconnu ces mêmes dogmes de la religion civile, se conduit comme ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort. Hein, c'est le sens de l'expression la liberté ou la mort. Alors on pourrait objecter, et la tolérance dans tout ça? Les philosophes des Lumières ont dit qu'il fallait tolérer toutes les opinions. Mais ils ont dit aussi qu'il ne fallait pas tolérer les intolérants. Or, les catholiques fervents sont des intolérants. Des fanatiques, disait Voltaire. Il faut donc que les hommes commencent par n'être pas fanatiques pour mériter la tolérance, écrit-il dans son fameux traité sur la tolérance, lui qui était si intolérant par ailleurs. C'est ainsi que la Révolution, qui avait proclamé la liberté religieuse, persécute aussi la religion. Liberté pourtant proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puis en décembre 93, puis en février 95, mais bon, parole est, hein. Mais cette liberté est d'une essence particulière, elle est imprégnée de l'esprit de tolérance philosophique, qui est en fait un esprit d'exclusion et de persécution. Il suffit de lire un peu Voltaire pour le comprendre. Ainsi s'explique-t-on fort bien pourquoi la révolution de la liberté persécute la liberté, écrivait Jean de Vigry. Ce n'est pas la liberté ou la mort, c'est la liberté et la mort. Voilà. Voilà pour les prêtres réfractaires. Et les prêtres qui ont prêté serment, alors, est-ce qu'ils vont trouver grâce? On ne peut pas les tuer, du moins pour l'instant, parce qu'ils sont en règle. Alors on les force d'abdiquer et de se marier. Parce qu'évidemment, le célibat sacerdotal est une forme d'obscurantisme particulièrement sournois auquel il faut absolument mettre fin. Et donc en 91-92, il y a de nombreux cas de prêtres qui se sont mariés volontairement. Même, c'est le cas de l'évêque Lindet. Après, ça devient quasi obligatoire. Il y a la pression des sociétés populaires qui s'exerce sur ces prêtres que l'on menace de la prison ou de l'échafaud. On les force à se marier, à se déprêtriser, comme on dit alors, en déposant leur lettre de prêtrise. Et donc, après avoir cédé pour le serment, ils cèdent à nouveau. 20 000 prêtres renoncent à leur sacerdoce. Et on a des textes, enfin, il y a des formulaires, hein. Je sous-signais un tel, faisant métier de prêtre depuis longtemps, convaincu des erreurs par moi trop longtemps professées, déclare y renoncer à jamais. Donc voilà, il me semble important de montrer que d'abord on persécute les prêtres, le sacerdoce, réfractaire ou jureur, et c'est l'éminente dignité du prêtre qui est attaquée, vous voyez. Deuxième moyen de s'attaquer, deuxième aspect de la persécution antireligieuse, la fermeture des églises. Il y a eu deux périodes. D'abord au cours de la Grande Terreur, avec les débuts de la Convention thermidorienne, en gros entre novembre 93 et mai 95, puis du coup d'État du 18 Fructidor en 5, en septembre 97, à celui du 18 Brumaire en 7, le 9 novembre 99, celui de Bonaparte. Donc, faut pas croire que la fermeture des églises s'est réservée à la période de la Terreur. Il y en a eu aussi assez tardivement. Presque toutes les églises de France ont été fermées durant un temps plus ou moins long. Plusieurs semaines, plusieurs mois ou plus longtemps encore. Auparavant, on les a bien sûr dépouillés de tout leur contenu. Par exemple, à la cathédrale du Puy, les confessionnaux ont été transformés en guérites pour la garde nationale. Très amusant, n'est-ce pas? Et des sanctuaires ont été transformés en magasins à fourrage, en poudrières. D'autres ont été démolis, soit par les acheteurs, soit sur décision des communes. Par exemple, dans le Nord, on a détruit plus de 400 églises à ce moment-là. Et puis, certains sanctuaires sont transformés en temples de nouveaux cultes, de la raison ou de l'être suprême. Notons que le culte protestant n'a pas été plus épargné. En Ardèche, toute activité a ainsi cessé pendant la Terreur, par exemple. Donc, fermeture des églises. Troisième moyen de la persécution antireligieuse, l'abolition des signes extérieurs du culte. Les cloches sont dépendues, les calvaires abattus, les niches avec des statues de saints vidées. Et puis, on va déchristianiser le temps, puisqu'on instaure un calendrier républicain avec sa semaine de 10 jours, ses jours numérotés, ses saints qui sont devenus des légumes ou des instruments agricoles, son décadi qui remplace le dimanche, et ses 14 fêtes nationales substituées aux fêtes chrétiennes. On déchristianise donc le paysage, le temps devient mécanique, les paysages muets, hein, il n'y a plus de cloches, et désert. Alors cette déchristianisation, elle prend du temps, justement. En 93-94, ce sont les patriotes, les sociétés populaires et les clubs qui en ont l'initiative, mais plus tard, c'est l'État qui prend en main cette affaire. Et à partir de 1797, la déchristianisation est administrative. On a une machine à déraciner à coups de lois, de décrets et de circulaires. Voilà les principaux aspects de la persécution antireligieuse, enfin le début. Mais à la place, ça ne suffit pas, on va mettre en place une religion séculière. En 99, on pourrait se demander s'il y a encore une religion en France, oui, mais une religion séculière, la religion de la nation, de la loi, de la liberté, de la nature, de la raison ou d'autres abstractions divinisées. Par exemple, le 10 novembre 1793, un culte de la raison a été inauguré à Notre-Dame de Paris. Et c'est Mademoiselle Maillard, danseuse à l'opéra, qui va l'incarner. Elle porte une robe blanche, un manteau bleu et un bonnet rouge, et on la promène en procession. Et on chante l'hymne à la liberté de Gossec et Chénier, dont je vous lis quelques strophes. Descends, ô liberté, fille de la nature, le peuple a reconquis son pouvoir immortel. Sur les pompeux débris de l'antique imposture, ses mains relèvent ton autel. C'est bien pompier, ça, hein? Donc le culte de la raison. Il y a aussi, vous savez sans doute ça, le culte de l'être suprême institué par Robespierre. Alors c'est un culte moins matérialiste que les autres cultes, et ses sectateurs admettent même, oh là là, c'est trop gentil, l'immortalité de l'âme. Le 18 Floréal en 2, donc 7 mai 1794, sur le rapport de Robespierre, la Convention ordonne que soit gravée au fronton de toutes les églises l'inscription suivante. Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'homme, de l'âme. Il y a donc une loi française qui dit ça. Un être qui n'a guère de consistance, un dieu pour déiste, un dieu sans parole et sans amour, un espèce de grand invertébré gazeux finalement, un concept divinisé. Et son culte ne dure pas, et après la mort de Robespierre, on en revient à la religion civile. La loi est une religion civile, dit d'ailleurs un commissaire du Directoire. Et puis, il y a la volonté chez certains révolutionnaires, comme les hébertistes, hein, qui sont des durs, d'abolir toute religion, de remplacer le christianisme par l'État et par la nouvelle patrie. Voici, par exemple, ce qu'on peut lire dans un rapport de Boissy d'Anglas à la Convention en février 95. Je ne vous montrerai pas même la religion intolérante et dominatrice, s'associant aux crimes des rois pour les autoriser aux yeux des peuples, s'associant à la longue faiblesse des peuples pour la transformer en une espèce de vertu, elle avait abruti l'espèce humaine. Donc, elle doit disparaître, vous voyez. Alors, il faut détruire les prêtres en raison de leur insociabilité. Les prêtres ne sont pas seulement rebelles à la loi, ils sont aussi et surtout les ennemis de la société et ceux qui les suivent également. Alors tout cela ne s'est pas passé sans résistance, bien sûr. Hein? Mais il faut bien voir que ça se passe dans le contexte d'une persécution violente et effrayante, qui est bien de nature à faire céder les plus résolus. D'ailleurs, beaucoup ont cédé. La moitié des prêtres avaient prêté le serment civique et adhéré ainsi au schisme, mais la moitié de cette moitié a abdiqué, renonçant aux fonctions sacerdotales. Du côté des fidèles, beaucoup se sont déshabitués de fréquenter les églises et de recourir aux sacrements. Il y a eu un abandon massif de la pratique en 10 ans. En 89, on comptait à peu près 10% de Français qui ne faisaient pas leur Pâques. En 1801, c'est 50%. Alors ça va remonter ensuite, la pratique, mais voilà. L'Église de France est devenue un champ de décombres, en fait. La Monnaie écrit ainsi en 1808, depuis la destruction du paganisme, l'histoire n'offre pas un second exemple d'une dégénération aussi grande et aussi complète. Bref, la persécution a été efficace comme toutes les persécutions violentes. Cependant, s'il n'y avait pas eu de résistance, elle aurait tout anéanti ou presque. Cette résistance, elle est d'abord un refus. Refus des prêtres séculiers de jurer le serment schismatique. Refus des moines et des religieux de quitter leur maison au printemps 1790. Il y a une majorité de refus chez les hommes et une quasi-unanimité chez les femmes. En août 92, on décide d'en finir et on les jette à la rue. On leur interdit de reconstituer leur communauté, mais les religieuses passent outre et constituent des couvents clandestins. Même en prison, certaines continuent la vie conventuelle. En mai 1794, par exemple, 32 religieuses appartenant à quatre congrégations différentes sont enfermées ensemble à la prison d'Orange. Elles se réunissent ensemble dans la même chambre, elles adoptent la même règle. Leur première pensée fut d'avoir la même règle, puisqu'elles avaient la même destinée. Le refus, c'est aussi celui de fidèles qui s'associent au refus de leurs prêtres, qui rejettent les nouveaux curés jureurs dans les paroisses, qui n'assistent pas à leurs messes. Ce refus est méritoire parce qu'il est aussi dangereux. L'insurrection contre une loi est considérée comme un crime de lèse-nation. La résistance peut aussi prendre la forme de la révolte. C'est ici qu'il faut citer la Vendée, la Chouannerie, et puis des mouvements en Lozère ou en Berry. Et le soulèvement vendéen est celui dont le caractère religieux est bien sûr le plus marqué. Mes amis, n'oublions pas que nous combattons pour notre sainte religion, dit Catelineau le 13 mars 1993 devant 500 hommes. Après, il s'agenouille et il entonne le Vexilla Regis, hein, l'étendard du roi. Le roi, c'est le Christ. L'âme de la résistance est l'Église clandestine. Sa vie cachée commence à l'été 91. Rien ne compte alors plus que la messe. La messe sera dite à tout prix, dans les conditions les plus invraisemblables. On peut ici citer l'histoire de Madame Bergeron, qui installe chez elle à Paris, dans son magasin de quincaillerie, juste en face du tribunal révolutionnaire, une chapelle clandestine où la messe est dite tous les jours, 18 mois durant. On risque sa vie à la célébrer, mais aussi à y assister. On peut citer ici Louise Poirier, femme barrée, paysanne de Longeron, en Maine-et-Loire, interrogée par le comité révolutionnaire de Cholet le 20 janvier 1794. On lui a posé deux questions. As-tu assisté à la messe du prêtre constitutionnel? Et deuxième question, as-tu assisté à celle de l'ancien curé? À la première, elle répond non. À la seconde, elle répond oui. Elle est condamnée à mort et elle a été béatifiée en 1983. Combien de témoins de l'amour du Christ, de son Église et de la fidélité au pape? On a 870 béatifications, dont les 16 carmélites de Compiègne, les 13 ursulines de Valenciennes, les 191 martyrs de septembre 1792, dont je vais reparler, à la prison des Carmes, celle de Saint-Firmin, celle de l'abbaye c'est Saint-Germain-des-Prés, les 19 martyrs de Laval, les 99 martyrs d'Avrillé près d'Angers, dont 84 laïcs, le père Adrien Toulorge, religieux prémontré guillotiné à Coutances le 13 octobre 1993, etc., etc. Alors, le mieux, c'est peut-être que je développe un exemple, et comme on est à Paris, je vais développer les carmes que je connais un peu, les fameux martyrs de septembre. Remettons-nous dans le contexte. Devant l'invasion imminente de la France, les autorités républicaines prennent peur. On n'est pas encore tout à fait en République d'ailleurs, hein, puisqu'on est en fin août, début septembre 92, et la République est proclamée seulement un peu plus tard. Mais on n'est plus en monarchie, la monarchie est abolie depuis le 10 août, on est dans un entre-deux. Et donc, devant l'invasion imminente de la France, ces autorités prennent peur, et à partir du 13 août 92, on arrête les aristocrates et les prêtres suspects d'intelligence avec l'ennemi. Le 19 août, les Prussiens franchissent la frontière française. Le 30 août, ils investissent Thionville et mettent le siège devant Verdun, dernier rempart sur la route de Paris, et qui tombera d'ailleurs le 2 septembre. Paris se transforme en camp retranché depuis plusieurs jours. Toute une psychose, les rumeurs, les appels au meurtre dans une fièvre qui fait monter les nouvelles les plus alarmantes. On dénonce, on organise des fouilles, on cherche des armes, on trouve éventuellement des correspondances avec des émigrés et des emblèmes ou des images royalistes qui ne sont rien d'autre que des objets de dévotion au Sacré-Cœur. Il y a environ 350 ecclésiastiques incarcérés, dont plus de la moitié sont étrangers à la capitale. Ils sont incarcérés dans des prisons improvisées, faute de place ailleurs. Et dans ces prisons, comme le couvent des Carmes, hein, rue d'Assas aujourd'hui, là où est l'Institut catholique, une surprenante sérénité règne, en contraste violent avec les cris, les canonnades, les incessants roulements de tambours qui s'échappent des rues survoltées. Alors, pour savoir ce qui s'est passé à l'intérieur, on dispose du témoignage d'un prêtre, l'abbé Joseph Saurin, ex-jésuite de la province de Lyon, qui a réussi à s'enfuir. Toutes les sociétés religieuses y sont représentées. Les prêtres séculiers appartiennent à une quarantaine de diocèses de France. À la tête des prisonniers des Carmes, il y a trois évêques, l'archevêque d'Arles, Jean-Marie Dulot d'Allemand, l'évêque de Saintes, l'évêque de Beauvais, frère du précédent d'ailleurs. Tous les trois avaient été députés du clergé aux États généraux. Alors l'abbé Saurin est très impressionné lors de son arrivée avec 30 compagnons par ce calme insolite et l'emploi du temps organisé par les évêques sous l'œil débonnaire des gardes de la section du Luxembourg. Le matin, ce sont les exercices de piété, avec la prière dite par l'archevêque d'Arles pour tous les prêtres privés de messe depuis qu'ils ont refusé les services d'un prêtre constitutionnel dépêché par les autorités. À 1 h, le repas est à 25 sous, il faut payer, et servi dans l'église par un traiteur. L'après-midi, on peut se promener dans le vaste jardin, on lit son bréviaire individuellement. Pendant ce temps, dans la nef de l'église, on brûle de l'encens et du vinaigre. Jeté à grand baquet pour assainir un peu l'air empesté par cette surpopulation. Quelle est la conviction de tous? Nous étions donc au Carme pour servir d'otages ou de victimes, comme dit alors un de nos confrères, dit l'abbé Saurin. Le pressentiment se vérifie devant le soudain remue-ménage du 1er septembre. La garde est doublée. Les groupes doivent se disperser pendant la promenade. Les visites du dehors sont filtrées. L'ordre, enfin, est donné d'avoir à régler le traiteur. Pas bon signe. Le dimanche de septembre, toujours sans nouvelles certaines sur le sort qu'on leur réserve, les prisonniers partent à la promenade du jardin. Quand, soudain, le tocsin sonne à Saint-Sulpice vers 5 heures et des émeutiers s'engouffrent dans la ruelle Saint-Hyacinthe qui longe le jardin des Carmes. Parmi les chants qu'on entend de l'autre côté du mur, les prisonniers reconnaissent le Dies Irae, jour de colère que ce jour-là. Il se répercute dans la rue de Vaugirard, à son tour envahi par d'autres bandes. Les gardes paraissent surpris. Et il commence à faire refluer les prêtres vers l'église. Les portes du jardin cèdent alors sous les coups de crosse de la foule hurlante. Et on a le récit de l'abbé Saurin et d'autres témoignages qui nous expliquent les massacres qui éclatent alors en 4 phases. Première phase, une tuerie éclate dans le jardin. Certains prêtres, parmi les plus jeunes, escaladent les murs et se laissent tomber dans les ruelles et les jardins avoisinants. Ceux-là vont survivre, a priori. La troupe d'hommes et de femmes, beaucoup complètement ivres, a déjà percé de pique des malheureux comme le père Giraud, tertiaire régulier du couvent Notre-Dame de Nazareth, qui lisait son bréviaire près du bassin central et dont le souvenir, comme premier mort, premier martyr, est marqué toujours par une colonne dans le jardin des Carmes. La fusillade s'interrompt un instant devant la courageuse protestation de l'archevêque d'Arles. On fait alors rentrer les prêtres dans l'église et commence alors une deuxième phase. On attend dans l'église. Les prêtres se donnent mutuellement l'absolution. Les meurtriers injurient leurs futures victimes depuis une chapelle attenante au sanctuaire. Ici, dit l'auteur, les couleurs me manquent pour peindre la rage, la furie de ces hommes. La journée de la Saint-Barthélemy, la mort récente de leurs frères sur les frontières, formaient des chefs d'accusation contre nous. Une demi-heure s'écoule, ponctuée de coups de feu contre les derniers fugitifs dans le jardin. Et alors commence une troisième phase, la reprise des massacres. On s'adresse d'abord aux prisonniers rassemblés dans la nef, puis on les pousse par petits groupes vers le jardin où les attendent des assassins au pied du petit escalier. On tue même jusque dans les caves du couvent. Les prêtres encore indemnes dans la nef sont regroupés autour des trois évêques qui les exhortent à bien mourir. Paraît enfin une autorité, un petit homme d'une physionomie sinistre, vêtu d'un habit bourgeois et tenant un sabre nu élevé. Violette, commissaire de la section, étrangement absent depuis le début de la tuerie. « Allons, messieurs, deux à deux !» Un cortège se forme dans les trois corridors qui mènent de la chapelle au jardin. Et c'est le début de la quatrième phase, celle de l'exécution générale, après un simulacre de jugement réduit à un bref interrogatoire d'identité. Les survivants sont jetés en pâture aux assassins surexcités par le vin et le sang. Ils passent par un petit passage, un petit escalier de quelques marches, et c'est là qu'ils sont percés de coups et où le sang va ruisseler de partout. Sur cet escalier, on a gravé une inscription « Hic Cheshiderunt », ils sont tombés ici. Alors, il y a un synchronisme quasi parfait de cette boucherie qui ensanglante Paris, à l'abbaye, à Saint-Firmin aussi. Le bilan officiel dressé au nom du comité de surveillance le 10 novembre 1992, portant sur 2637 détenus, il y a environ 1100 victimes, hommes et femmes, dont 300 ecclésiastiques, 191 au Carme, 76 à Saint-Firmin, 22 à l'abbaye, et on pense que cette estimation est fortement minorée. Voilà, il est difficile d'expliquer les causes de cette boucherie au-delà d'un hypothétique complot des prisons. Alors, il y a toutes sortes de profils parmi les martyrs des Carmes, puisqu'ils vont être béatifiés en 1926. Alors, je vous donne quelques exemples. Par exemple, on a un martyr qui avait été jureur avec restriction, le curé Volonda, qui était curé dans la Creuse. Donc, Joseph Volonda était né en 1752 à la Souterraine, dans le diocèse de Limoges, et il avait été curé constitutionnel de Saint-Gaultier, supérieur de collège dans le diocèse de Bourges. Il a été élu curé en mai 1791, ça sonne bizarrement à nos oreilles, élu curé. Et puis il a été pris de remords 9 mois plus tard, et il a fait une rétractation publique, que je vous lis. Le 3 mars 1792, je sous-signais déclare en présence de messieurs les officiers municipaux que je me démets de la place de curé de cette paroisse et de celle de supérieur du collège de cette ville, et que je me rétracte de mon serment. Conséquemment, je prête ainsi mon serment avec restriction. Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et sanctionnée par le roi, dans ce qui regarde le civil et non dans ce qui regarde l'autorité spirituelle de l'Église, à Saint-Gaultier, département de la Creuse, les 10 jours et en que dessus, Volonda, prêtre. Alors après avoir fait cette déclaration, cette rétractation publique, il a dû aller se cacher à Paris. Et c'est là qu'il a été arrêté. Citons-en un autre, M. Botex, du diocèse de Belley, honteux, car cet ancien député aux États généraux a été arrêté après qu'on lui eut trouvé chez lui une correspondance avec un prêtre contre-révolutionnaire, l'abbé Maury. Voici ce qu'il a déclaré. « Je sais bien que cette lettre est loin de rien contenir contre l'État. Je mourrai innocent de ce crime. » Mais je n'aurais pas le bonheur de mourir pour la foi. Bah, si. Voilà. Alors certains ont une préscience de leur martyr comme Jean-Jacques Morel, en religion le père Apollinaire, qui était un Suisse et qui était connu dans tout le quartier de Saint-Sulpice pour être le vicaire des 5000 Allemands de la paroisse. Il essaie de concilier l'inconciliable pour rester parmi ses paroissiens allemands. Il n'a même pas hésité à prêter le serment le 5 janvier 91, mais avec des restrictions lui aussi. Il figure pourtant sur la liste des jureurs purs et simples. Et pour lever l'équivoque, il se décide à une mise au clair dans le journal L'Ami du Roi. Dangereux de publier là-dedans. Croyant pouvoir continuer à exercer impunément son ministère, il a été arrêté le 14 août. Et sa joie franciscaine ne l'a jamais quitté. Il a laissé une lettre écrite en latin à un ami suisse, rédigée le 27 avril 1992, qui est à la fois une prophétie de sa mort prochaine et une méditation sur le martyr emprunté à saint Ignace d'Antioche. Je vous la lis. « Pourquoi, mon ami, craignez-vous tant pour ma tête? Pourquoi vous tourmentez-vous si vivement à mon sujet? Reconnaissez plutôt et adorez la divine Providence. Sa miséricorde pour me purifier comme on purifie l'or dans le feu m'a appelé à Paris pour instruire, entretenir et confirmer les Allemands dans la religion, destinés à mourir glorieusement pour la foi. Alléluia! 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 N'est-ce pas en souffrant des tourments bien plus atroces que le Christ est entré dans sa gloire? Venez et voyez les martyrs avec les couronnes que le Seigneur a placées sur leur tête. Je dois être baptisé du même baptême, et combien il me tarde de le voir s'accomplir. Le sang des martyrs n'est-il point la semence de la religion? Et si jamais l'effusion de ce sang fut nécessaire à son accroissement, c'est bien aujourd'hui. Vous craignez pour moi, c'est bien. Vous connaissez la faiblesse de l'homme, mais regardez le Christ et partagez ma sécurité. Je suis le froment de Jésus-Christ. Il faut que je sois moulu par nos bêtes fauves afin que je sois trouvé pur. C'est exactement Saint Ignace d'Antioche. Alors, si on, maintenant on prend le recul de l'historien, je me réfère au jugement de Georges Goyot, hein, le célèbre académicien, fin du 19e et début du 20e siècle, qui était titulaire de la chaire des missions à l'Institut catholique de Paris et auteur de nombreux ouvrages d'histoire et militant du catholicisme social. Dans le Figaro du 17 octobre 1926, donc dans un article rédigé au moment de la béatification des martyrs des Carmes, voici ce qu'il a écrit. « Ils sont martyrs pour avoir refusé le serment de la constitution civile du clergé, condamné par Rome en 1791. Inutile de rechercher si leur vie s'était illustrée par des vertus spécialement insignes. L'héroïsme de la mort dispense d'interroger l'histoire sur l'héroïcité des vertus. Inutile d'étudier longuement comment ces prêtres avaient observé la consigne qui leur demandait qu'ils fussent d'autres Christ. Le sacrifice même de leur vie les rendit en une minute décisive conformes au Christ immolé. L'Église, dès lors, en sait assez. Les dépotoirs de Vaugirard et de Montrouge, où pêle-mêle y furent jetés, elle les élève sur les autels, leur gloire est fondée. » Voilà, je vous ai un peu dit quelques mots sur les martyrs des Carmes, parce qu'on est tous parisiens, et que nos martyrs sont un peu oubliés. Toujours un petit pincement au début du mois de septembre de voir qu'il ne se passe rien dans le diocèse pour honorer leur mémoire, alors que le sang a coulé à flot pour le Christ. Alors, il y a bien d'autres martyrs, et puis il y a des causes en cours d'examen, comme celle de 110 enfants de moins de 7 ans massacrés au Lugues-sur-Boulogne en Vendée par la colonne infernale du général Cordelier, celle de 64 prêtres et religieux déportés à Rochefort et enfermés pendant des mois sur deux navires négriers ancrés en rade et transformés en geôles flottantes, et combien d'autres dont la cause n'est pas introduite, dont je vous cite les noms au passage. L'abbé de Lartigue, massacré par la foule à Clairac le 26 juillet 92, les 143 prêtres noyés en Loire à Nantes en décembre 93, l'abbé Duchin, guillotiné à Toulouse le 7 novembre 93, ou à Paris, Anne Poulain et sa servante Marguerite, le 21 décembre 93, pour avoir simplement caché un prêtre proscrit. À Paris encore, l'abbé de Fénelon, petit-neveu de qui vous savez, aumônier des petits savoyards de la capitale, ou à Montpellier, Marie Coste, paysanne, le 3 mai 94, pour avoir nourri un prêtre proscrit. Il y a donc tout un martyrologe de la Révolution française dont la rédaction est loin d'être terminée. Mais après la Terreur, que s'est-il passé, notamment sous le Directoire? On est en droit de penser que les choses se sont un peu apaisées, mais un peu seulement. Le Directoire opte pour une forme de séparation de l'Église et de l'État. La papauté apparaît comme un adversaire irréconciliable avec la Révolution, et on va un peu se transférer à Rome, vous allez voir. En 96-97, les armées révolutionnaires sont entrées en Italie et elles ont occupé le nord des États pontificaux, puisque le pape était souverain temporel, il avait des États. Bonaparte a négocié avec le gouvernement romain, et en février 97 a été signé le traité de Tolentino. Les États du pape ont été réduits, il a dû payer une rançon très élevée, mais la papauté a conservé Rome et sa région. Sauf que le 28 décembre 1797, le général français Dufaux a été victime d'une émeute anti-française à Rome. En représailles, le Directoire a fait occuper la ville et il est même allé plus loin. Le 15 février 1798, la République romaine est proclamée symboliquement sur le Forum et le pouvoir temporel du pape est aboli. Des fêtes civiques sont organisées sur le Capitole ou devant Saint-Pierre. On désacralise la Cité Sainte, on la repaganise si vous voulez. Les croix sont remplacées par des arbres de la liberté, de nombreuses églises sont pillées, les cardinaux et le pape sont arrêtés. Le pape Pie VI, qui va mourir à Valence le 29 août 1799, prisonnier de la République française. Rome n'est plus chrétienne. Les États pontificaux sont rayés de la carte. La papauté est anéantie. Le dernier pape est mort, disent certains. Conquérante, porteuse d'un esprit missionnaire laïcisé, La Révolution, la République entend remplacer l'universalisme catholique par l'universalisme des principes révolutionnaires. Et pourtant, lorsque Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en 1799, nul doute que la politique religieuse a échoué en France. Et donc, je vais passer à la période du Consulat et de l'Empire. Après la mort de Pie VI, la situation va évoluer rapidement, et elle va même évoluer rapidement vers un concordat, c'est-à-dire un accord diplomatique entre la France et le Saint-Siège. En effet, la République romaine que l'on venait de fonder va tomber rapidement sous les coups des Napolitains, et les Français vont même être chassés d'Italie. Le général Bonaparte, de retour d'Égypte, prend le pouvoir en France, et l'Église, après plusieurs mois, va se donner un nouveau pape. Le cardinal Chiaramonti va devenir le pape Pie VII, garde le nom de son prédécesseur et s'inscrit donc par là dans la continuité de celui-ci. Il est élu le 14 mars 1800. C'était un moine bénédictin devenu évêque, il est cultivé, réaliste et conciliant. Son nom indique le désir de continuité par rapport à son prédécesseur, comme je viens de le dire. Il choisit comme secrétaire d'État le Ercole Consalvi, le cardinal Consalvi. Et le pape et son cardinal, dans les circonstances actuelles, estiment que la papauté doit accepter certaines ouvertures politiques pour sauver l'essentiel. Ils vont donc être conciliants. Le 3 juillet 1800, le pape fait une entrée triomphale à Rome. Il restaure les états pontificaux. Pendant ce temps-là, en France, Bonaparte devient premier consul et il veut s'atteler à la pacification du pays en mettant fin à la division religieuse. En Italie, les Français battent les Autrichiens à Marengo le 14 juin 1800. Et donc, le pape, comme interlocuteur, comme voisin désormais, il a décidément la France et non plus l'Autriche. Et il est en quelque sorte condamné à s'entendre avec la France. Et c'est alors que des négociations sont ouvertes. La République française n'est pas parvenue à fonder un contrat social qui ne devrait rien à une société extérieure à l'État, comme l'Église. Mais l'Église catholique doit reconnaître qu'elle n'est plus en mesure non plus de s'imposer à nouveau comme religion d'État en France. C'est donc à partir de ce double échec qu'on va trouver un accord. Ce sera, après vraiment de très longues négociations, très tumultueuses, le 15 juillet 1801, la signature d'un concordat. Ce concordat réorganise l'Église de France sur la base de ce double échec. L'État ne peut imposer sa loi à l'Église, et l'Église ne peut imposer sa loi à l'État. Bonaparte perpétue à la fois certains principes de la Révolution et les grandes lignes du gallicanisme d'Ancien Régime. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce concordat ? Eh bien, le Saint-Siège reconnaît le gouvernement républicain. La liberté de culte est rétablie en France. Le catholicisme est déclaré religion de la majorité des Français. Tout est dans la nuance des termes. L'Église renonce à revendiquer ses biens nationalisés en 1789. Le père Grandet peut souffler. Ce qu'il a volé, il va le garder. L'État s'engage à rémunérer le clergé. Donc ça, c'était dans la constitution civile du clergé, vous voyez. Tous les évêques doivent démissionner, jureurs et réfractaires. On remet les compteurs à zéro, si je puis dire. Et les nouveaux évêques sont désignés selon une procédure en usage sous l'Ancien Régime. Tout ça pour ça. Le chef de l'État choisit les évêques et le pape leur confère l'investiture canonique. Si on avait mis ça en place dans la constitution civile du clergé, on aurait peut-être eu moins de morts. Autrement dit, le catholicisme n'est plus religion d'État, le pluralisme religieux est reconnu, le clergé est fonctionnarisé, la vie de l'Église est réglementée et rationalisée dans l'esprit des Lumières, et la hiérarchie est tenue à bride courte par un pouvoir fort. Mais la liberté religieuse est sauvegardée au milieu de toutes ces décisions, de tout ce nouveau cadre. En homme du XVIIIe siècle, qu'il est vraiment, Napoléon a une conception utilitaire de la religion. L'Église est donc appelée à contribuer à l'édification d'un État moderne et puissant, y compris sur le plan de l'idéologie. Le projet étatique est premier. Le relèvement de l'Église de France n'en est qu'un moyen. Il faut bien s'en rendre compte. Cependant, Bonaparte entend bien conserver les traditions gallicanes, les traditions d'indépendance de l'Église de France par rapport à Rome. C'est pourquoi, dès 1802, il impose à l'Église de France des règlements très précis, ce que l'on appelle les articles organiques, par lesquels l'État s'assure le contrôle de la vie de l'Église et interdit les relations directes entre les évêques français et Rome. Il n'y a pas que le concordat, les articles organiques qui sont mis en place par la France unilatéralement et contre lesquels le pape proteste, bien évidemment. Ainsi, Bonaparte assoit-il son régime en signant une paix inattendue avec la papauté, ça c'est une grande victoire, tandis que l'Église trouve dans le concordat le cadre d'une renaissance religieuse en France, renaissance qui va effectivement avoir lieu. En 1804, le pape vient à Paris présider le couronnement de Napoléon, proclamé empereur des Français, se présentant comme un nouveau Charlemagne en fait. Et derrière la façade du monarque chrétien et du nouveau Charlemagne qui se couronne devant le pape, le fond religieux du régime de 1804 n'est pas plus catholique que celui de 1789. L'empire napoléonien est une Romanita Rediviva, une Romanité qui revit, un empire juridique sur le mode romain antique qui instaure partout un droit commun de l'Europe, le code civil, synthèse des deux universalismes non catholiques, le droit romain et les idées nouvelles de la Révolution. L'idée de Napoléon Ier, maintenant, appelons-le comme ça va être de soumettre la papauté. Vous avez compris maintenant dans quel esprit, hein? La guerre va reprendre et c'est ça qui va un peu accélérer les choses. La guerre et ses grandes heures, comme la victoire d'Austerlitz, le 2 décembre 1805 contre l'Autriche et la Russie, et puis l'extension à nouveau sur l'Italie, hein, je ne vais pas raconter tout Napoléon, c'est pas possible, mais Joseph Bonaparte va devenir roi de Naples, Napoléon régnant quant à lui sur l'Italie du Nord, et Napoléon tente d'intégrer le pape dans sa romanité nouvelle, et lui écrit: Votre sainteté est souverain de Rome, moi j'en suis l'empereur. Tous mes ennemis doivent être les siens. En 1808, le pape refuse de se prêter au blocus continental contre le commerce anglais. Napoléon fait alors occuper Rome, revoilà les Français. En 1809, Rome est même annexée à l'Empire et en devient la seconde capitale. Les États pontificaux sont supprimés, le pape est arrêté, décidément c'est une manie. Il est détenu à Savone, puis à Fontainebleau. Mais si on retrouve à nouveau une captivité pontificale, la situation est assez différente de celle des années 1798-1799, parce que Napoléon ne veut pas anéantir la papauté, il veut la soumettre. En 1809, l'Autriche catholique s'allie avec Napoléon, qui épouse Marie-Louise dans la perspective de fonder une dynastie. Il n'y a pas que l'Autriche qui soit catholique. Il y a l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, tout aux mains de Napoléon Bonaparte, directement ou indirectement. Et finalement, est-ce que le grand empire napoléonien et l'Église catholique ne se confondraient-ils pas désormais? Hein? Surtout dans une espèce de géopolitique religieuse face à l'Angleterre protestante ou face à la Russie orthodoxe. Paris est la nouvelle capitale de l'Europe. Et pour Napoléon Ier, le pape doit désormais s'y établir. Mais le pape résiste. Alors il est prisonnier, alors il résiste avec ses armes spirituelles, c'est-à-dire l'excommunication, et c'est-à-dire le refus des investitures canoniques des nouveaux évêques nommés dans l'Empire. Et puis, c'est la campagne de Russie, c'est l'effondrement de l'Europe napoléonienne. On ne fait pas l'histoire avec des si, mais si Napoléon était rentré vainqueur de Russie en 1812, il aurait eu les moyens d'imposer sa loi au pape et d'infliger à la papauté une défaite historique. Mais il n'en a pas été ainsi. En janvier 1814, le pape est libéré, relâché par Napoléon, qui voit bien que tout s'effondre. Et le 24 mai 1814, Pie VII fait à nouveau un retour triomphal à Rome. À cette date du 24 mai, Napoléon Ier est déchu. Et donc, la force spirituelle a triomphé des armes, finalement. Le pape, par sa résistance aux tyrans, par les persécutions qu'il a subies, par sa victoire finale sur l'empereur, est auréolé d'un immense prestige. Et ça va être le déploiement en France du fameux ultramontanisme, hein, qui va caractériser l'Église de France du 19e et du 20e siècle. Voilà, l'édifice napoléonien a été ébranlé par le réveil des nationalités qui se nourrissaient du sentiment religieux aussi. Mais ce redressement pontifical est trompeur. La restauration temporelle des États pontificaux n'est pas un retour en chrétienté. La restauration européenne ne met pas fin à la révolution libérale. L'opinion catholique va se diviser même entre les libéraux d'un côté et les intransigeants de l'autre. Voilà, ça fait un long parcours en en juste une heure. Alors, quelques éléments pour conclure. Est-ce que finalement l'essence de la Révolution française a bien été ou pas la haine du christianisme et la volonté de le détruire? C'est la thèse de beaucoup de gens, des pamphlets antirévolutionnaires, de Jean de Vigry, de l'historien, l'autre historien Jean Dumont. C'était déjà la thèse d'Edmund Burke, hein, que de voir la Révolution comme une machine de guerre contre l'Église. Alors ici, j'ai essayé de vous montrer que dans l'histoire révolutionnaire, le facteur religieux est essentiel, là où d'autres avaient privilégié pendant longtemps les facteurs politiques, économiques et sociaux, en particulier les historiens marxistes. Donc, faire une histoire un peu plus spirituelle de la Révolution, c'est intéressant. Alors, il est évident que finalement, cet aspect antichrétien explicite de la Révolution française, il est là. Il est l'aboutissement d'un siècle de philosophie des Lumières, mais il ne faudrait pas conclure trop rapidement que l'héritage de la Révolution française serait à rejeter en bloc parce qu'intrinsèquement pervers, hein. Parce que la Révolution, c'est aussi certains éléments qui ont obtenu l'aval de l'Église, comme la modernisation du politique au tout début, hein. Si on a rejeté la constitution civile du clergé, l'Église a accueilli avec un regard un petit peu différent la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'époque, si on s'entend bien sur les termes, bien sûr, hein. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Faut bien voir qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose qu'aujourd'hui derrière cette expression, hein. Le pape, lui, a émis des réserves, mais dans la perspective d'une sauvegarde des droits de Dieu, hein. Donc il a parlé sur un plan différent. Voilà, donc il y a des choses peut-être à conserver, mais je ne vais peut-être pas trop développer. Nous constatons aussi que l'Église de France était loin d'être un édifice vermoulu, refuge de superstitions passées qui se seraient effondrées au premier ébranlement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On s'est beaucoup moqué de l'Église au XVIIIe siècle, mais force est de constater que par-delà un certain affaiblissement, un certain détachement par rapport au christianisme, eh bien, tous ces prêtres, quand ils ont dû rendre compte de leur fidélité au Christ jusqu'au don de leur vie, eh bien, ils ont été là. Une grande partie qui a été là, qui montrait que malgré l'affaiblissement de la ferveur religieuse chez beaucoup de gens, à l'heure décisive, beaucoup ont été là, et même des renégats finalement. Voilà. Donc, il s'est passé quelque chose de tout à fait important. Voilà, en tout cas, vous voyez que ça nous dit des choses sur le rapport de l'Église à la Révolution et à l'Empire, le rapport de l'Église à la modernité et finalement à la vitalité de l'Église. Alors je voudrais conclure avec Tertullien. On voit bien qu'après autant de persécutions, on comprend un petit peu mieux ce qui s'est passé dans l'Église de France au XIXe siècle. Dès la période du Consulat et de l'Empire, tout ce qui avait été rasé, brûlé, détruit et ravagé par les révolutionnaires se met à repousser. J'en veux pour témoin des tas de choses. La Compagnie de Jésus, qui avait été supprimée sous Louis XV, commence à renaître. Les Dominicains sont refondés par Lacordaire. On se met à fonder des centaines de congrégations religieuses, en particulier féminines. On se met à envoyer des missionnaires aux quatre coins du monde, en Afrique ou en Asie. On se met à développer l'éducation et l'enseignement religieux dans les écoles au fur et à mesure que la liberté scolaire progresse en France avec la loi Guizot, la loi Falloux ou la création des instituts catholiques en 1875. On assiste donc à un siècle de renouveau catholique qui s'enracine dans le sang des martyrs de la Révolution. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, et on n'a pas à rougir de cette grande et belle histoire de l'Église qui est en France pendant la période révolutionnaire.